Bonsoir, je m'appelle Augustin Chicaro et je travaille à l'Agence spatiale européenne dans un des établissements de l'agence en Hollande et je m'occupe de futures missions sur la planète Mars, de missions scientifiques qui ont déjà été envoyées et qui vont être envoyées dans les prochaines années. Alors, pour vous parler de l'exploration de Mars, il faudrait reculer à peu près 45 ans en arrière, puisqu'elle a commencé, à vrai dire, au début des années 60 par les Américains et les Soviétiques. Mais je vais me concentrer ce soir sur l'exploration de Mars faite par l'Europe, parce que l'Europe a déjà commencé cette exploration il y a un certain nombre d'années. En particulier en 2003, l'Agence spatiale européenne a lancé un satellite qui marche toujours, qui tourne autour de Mars trois fois par jour et qui envoie de très belles données que vous allez voir. Et cette exploration continue, on prépare les nouvelles étapes, on prépare des atterrisseurs, on prépare des petits véhicules pour pouvoir bouger à la surface. Et donc, je vais vous parler de tout ça, des missions actuelles et puis des plans pour la prochaine décennie à peu près. Cette mission qui a été lancée en 2003 s'appelle Mars Express. Elle avait été lancée depuis Baïkonour, au Kazakhstan, de la même base où les Soviétiques ont lancé tant de missions sur les planètes et aussi d'autres missions en orbite terrestre. Et en fait, c'est la première mission européenne qui a jamais atteint une autre planète. Par la suite, on a lancé des missions sur la Lune, on a lancé des missions sur Titan, qui est un des satellites de Jupiter. Vous avez certainement vu dans la presse des images spectaculaires sur l'atterrissage de ces sondes. Mais la mission Mars Express a été la première que l'Europe a lancée vers une autre planète. C'est une mission qui a été dont l'idée est venue de récupérer beaucoup d'objectifs scientifiques d'une autre mission qui était principalement russe, mais aussi en grande collaboration avec l'Europe, qui s'appelait Mars 96, qui a mal fini puisqu'elle est encore au fond du Pacifique. Donc, pour récupérer la science que ces instruments auraient pu réaliser, l'Europe a décidé de lancer sa propre mission, de reconstruire ces instruments européens qui avaient beaucoup de valeur scientifique et de la lancer nous-mêmes. Et c'est ce qui a donné lieu, en fait, un peu de façon rapide. C'est pourquoi cette mission s'appelle Mars Express, parce qu'elle a été faite en un temps record de 5 ans, depuis que la mission a été approuvée jusqu'à ce qu'elle ait été lancée. Chose qui est tout à fait unique dans l'espace et d'autant plus pour l'Europe. On n'a jamais lancé une mission aussi rapidement et depuis, on ne l'a plus jamais refait. Donc, elle porte bien son nom. Et c'est une mission qui a étudié tous les aspects de la science martienne. C'est une mission qui continue d'étudier, puisque le satellite tourne autour de Mars trois fois par jour et étudie la surface de Mars en faisant des images, en faisant des analyses sur la minéralogie de la surface et aussi des analyses sous la surface avec un radar qui est le premier radar planétaire qui a jamais été envoyé, qui nous permet de regarder à des profondeurs de plusieurs kilomètres sous la surface et de détecter de la glace d'eau. Et aussi, ce satellite étudie l'atmosphère de Mars, qui ressemble par certains côtés à la Terre, mais qui est bien distincte et qui a un climat tout à fait extrême qu'on ne pourrait pas supporter si on vivait sur une telle planète. Et, elle étudie l'interaction entre la haute atmosphère et le vent solaire. Donc, cette mission a commencé au Kazakhstan au mois de juin 2003, envoyée par une fusée Soyouz, fabriquée par les Russes à cette époque, que l'Europe a achetée. Et le satellite a été fabriqué en Europe, principalement à Toulouse, par Astrium et par beaucoup d'autres compagnies, puisque, comme toute entreprise spatiale européenne, c'est toujours un grand conglomérat d'industries de par toute l'Europe qui ont fabriqué les instruments, les différents composants, etc. Dont vous pouvez voir des exemples de ces instruments qui sont des caméras, des spectromètres qui permettent d'analyser la composition de l'atmosphère ou la composition de la surface de la planète. Aussi un radar qui permet de regarder sous la surface, etc. Donc, en 6 ans que ce satellite tourne autour de Mars, il a fourni d'énormes résultats scientifiques. En fait, chaque instrument a permis d'établir de nouvelles bases scientifiques en allant bien au-delà de ce que nous avaient permis les missions préalables, principalement américaines. Et je vais vous montrer quelques exemples de ces recherches scientifiques. En premier lieu, quand vous regardez la surface de Mars, ce que Mars Express a montré, c'est que la surface est beaucoup plus jeune que ce qu'on pensait auparavant. On pensait que Mars était une planète morte, à peu près comme la Lune, qui, effectivement, a des volcans. C'est une planète qui ressemble beaucoup à la Terre, avec des volcans géants qui font une hauteur à peu près 3 fois... l'Everest, c'est-à-dire à peu près 24-25 km d'altitude. Donc, vous rendez compte que c'est des dimensions énormes. Il y a des volcans qui ont un diamètre, la distance entre Bordeaux et Paris, à peu près 500-600 km de diamètre. Et tout ça, on pensait que c'était bien tranquille depuis très longtemps, mais en fait, quand on regarde de près, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Et comment le sait-on ? Quand vous regardez une surface planétaire, vous voyez qu'elle est criblée de cratères. Et plus cette surface a été exposée à l'espace, et plus elle a reçu d'impacts de météorites, donc plus elle a de cratères, et plus elle est ancienne. Une surface très jeune est tout à fait lisse, sans pratiquement aucun cratère. Et une surface ancienne aura beaucoup de cratères. Donc c'est grâce à cette astuce qu'on peut déterminer de façon indirecte l'âge d'exposition de ces surfaces planétaires. Et on voit que tous les volcans de Mars sont relativement récents et peut-être même pourraient entrer en éruption dans un avenir proche. Et il y a aussi des phénomènes glaciaires très importants, et ces phénomènes sont encore plus jeunes que le volcanisme, c'est-à-dire qu'il y a des glaciers, comme vous voyez dans les Alpes, qui sont encore en fonctionnement. Donc, bien qu'il y ait des saisons très extrêmes, parce qu'il y a des variations de température énormes, bien que tout est froid, tout est ou froid, ou très froid, ou extrêmement froid. Il n'y a pas de chaud. Mais les variations sont beaucoup plus grandes que ce que nous subissons sur la Terre. Donc tout ça est en fait très jeune et continue à se remodeler tout le temps. On voit, par exemple, des glaciers qui nous montre un écoulement actif encore. On voit des traces de circulation d'eau dans l'histoire de la planète qui, bien que l'eau ne peut plus exister à la surface, puisque l'atmosphère de Mars est très faible, il n'y a pas beaucoup de pression atmosphérique. Et donc, si vous ouvrez une bouteille d'eau sur Mars, l'eau va immédiatement se dissiper dans l'atmosphère. Elle ne va pas rester liquide très longtemps, peut-être quelques minutes, mais elle va s'évaporer immédiatement dans l'atmosphère, parce que la pression atmosphérique n'est pas suffisante pour garder cette eau en état liquide. Mais dans le passé de Mars, on voit qu'il y a eu des rivières qui ont coulé, et donc l'eau a pu se maintenir à l'état liquide pendant certaines périodes, il y a à peu près 4000 millions d'années, 4 milliards d'années. Donc c'est des chiffres évidemment qui sont un peu difficiles à comprendre, mais en géologie on parle en millions d'années et non pas en dizaines, en centaines d'années. Et quand on regarde la géologie des planètes encore plus, très souvent, par exemple, l'âge des roches à la surface de la Lune est extrêmement ancien, 3 milliards d'années, 4 milliards d'années, pas plus de 4,5, parce que ça, c'est l'âge de formation du système solaire. Donc, c'est l'âge maximum que peuvent atteindre les surfaces planétaires. Sur Terre, il est très difficile de trouver des roches si anciennes, pour la simple raison que vous avez tous entendu parler de la tectonique des plaques. Les différents continents sur Terre bougent les uns par rapport aux autres, et il y a une grande quantité de matériel qui, par exemple, matériel océanique, qui passe en dessous d'un continent, donc qui est absorbé, la matière est recyclée dans le manteau terrestre. Et donc, il y a une circulation de roches à l'état fluide, chose qui n'arrive pas sur les autres planètes. Donc, sur Terre, les terrains sont beaucoup plus jeunes que ce qu'on voit sur Mars. Mais, ceci dit, la surface de Mars est très variée et nous montre des volcans énormes, nous montre des calottes polaires, qui changent de taille avec les saisons. Elles augmentent de taille en hiver et elles rétrécissent au printemps et en été, puisque toute la glace d'eau qui se trouve dans ces calottes polaires se dissipe dans l'atmosphère et donc la masse de glace rétrécit. Vous avez une glace d'eau qui est plutôt de couleur bleuâtre et une glace de dioxyde de carbone, qui est ce que vous respirez quand vous trouvez derrière un taxi. C'est la même chose que l'atmosphère de Mars. Et ça donne une glace plutôt jaunâtre. Donc on peut distinguer les deux types de glace dans les calottes polaires de Mars, soit un petit peu bleuâtre, soit un petit peu jaunâtre. C'est une planète qui a une atmosphère transparente, exactement comme la Terre, chose qui n'est pas le cas par exemple pour Vénus, pour Jupiter, pour Saturne. On ne peut pas voir à travers ces atmosphères-là, mais sur Mars et sur la Terre, on peut. Et il y a aussi des vents assez violents, comme des ouragans, des tempêtes de sable. Ces vents soulèvent d'énormes quantités de sable de la surface et, en fait, ensevelissent toute la planète. Parce que périodiquement, tous les 2 ans, tous les 4 ans à peu près, la quantité de sable en suspension dans l'atmosphère est telle qu'elle empêche de voir la surface de la planète et il faut attendre que ça se calme. Et d'ailleurs, une des missions qui ont eu le plus de succès, qui ont atterri sur Mars il y a à peu près une trentaine d'années, les sondes américaines Viking, avait dû attendre plusieurs mois avant de pouvoir atterrir sur la surface de Mars. Parce qu'il se trouve que par malchance, il y a eu une tempête de sable qui a duré plusieurs mois, comme on voit sur Terre, par exemple, dans les déserts, comme celui du Sahara. Et il a fallu attendre que ça se calme pour pouvoir atterrir. Mais on voit tous ces modelés géographiques qui font que c'est une planète relativement semblable à la Terre. Il y a aussi une énorme crevasse qui fait la longueur de toute l'Europe. Vous avez certainement vu dans les films de western des images du canyon du Colorado. C'est très typique. Et ben, ce petit canyon serait rien à côté du grand canyon qu'il y a sur Mars, qui fait toute la longueur de l'Europe. Donc vous imaginez que les phénomènes géologiques ont une ampleur, ont des échelles de taille très très différentes de la Terre. Il y a aussi des terrains anciens. Pourquoi sait-on que c'est ancien ? Vous voyez que c'est couvert de cratères, c'est aussi couvert de failles. Il y a eu une tectonique qui a déformé ces terrains au cours du temps. Et bon, ça fait que Mars a des terrains très anciens et puis d'autres beaucoup plus jeunes. Alors, cette mission Mars Express a non seulement étudié la planète Mars, mais aussi les lunes de Mars, les lunes naturelles de Mars, qui s'appellent Deimos et Phobos. Ça, c'est surtout Phobos, parce que l'orbite de Mars permet de se rapprocher périodiquement de Phobos, à peu près tous les 4 mois environ. On se rapproche de peut-être 100 km, 200 km. Ça paraît beaucoup, mais dans l'espace, c'est très près. Et en fait, 100 km, c'est la distance minimale ou plutôt maximale de laquelle on peut se rapprocher. Si jamais on vole la sonde de Mars Express voler plus près que 100 km de Phobos, il faudrait faire des manœuvres pour éviter de passer si près, parce que c'est pour des questions de sécurité. Mais on a pu faire les meilleures photos de Phobos qu'on ait jamais fait auparavant, et aussi analyser la structure interne de ce satellite, la composition, voir de quoi c'est fait. Ce qui fait que bon, c'est une des grandes découvertes de cette mission. Ici, on peut voir différents types de glaces dans les calottes polaires. Je vous parlais tout à l'heure des glaces un peu bleuâtres, des glaces d'eau, et de glaces un peu jaunâtres, de dioxyde de carbone. Et grâce à un spectromètre, d'ailleurs fabriqué par une équipe française, on a pu aussi déterminer les différents types de minéraux qu'on trouve à la surface de Mars. Et grâce à ces minéraux, on a pu faire un voyage dans le temps de l'histoire de Mars et découvrir quelle était la quantité d'eau qui était présente à la surface de Mars quand ces minéraux se sont formés. Tous ces minéraux, c'est des minéraux d'altération. Si vous mettez, si vous avez une rivière quelque part, toute cette eau va altérer chimiquement les roches qui se trouvent autour. Et peu à peu, la chimie des roches environnantes va changer et vous allez obtenir d'autres minéraux qui sont dus exclusivement à l'altération par l'eau. Et donc, en faisant une cartographie de ces différents minéraux, on a pu dérouler un film en sens inverse et voir quelle était la quantité d'eau. Donc, quand l'eau était courante à la surface de Mars, il y a à peu près 4 milliards d'années, cette altération a donné lieu à des, on appelle ça des phyllosilicates. C'est des roches, c'est des minéraux qui sont en couches, en lamelles très fines. On en trouve sur Terre, bien sûr. Mais bon, ce qui est assez unique, c'est que ce n'est pas sur Terre, ici, c'est sur Mars, et que c'est dû à l'eau. Quand cette eau liquide s'est faite beaucoup plus rare à la surface de Mars, on n'a plus obtenu de ces phyllosilicates, mais on a obtenu des sulfates. Les sulfates se forment quand vous avez une grande évaporation d'eau. Par exemple, dans les mers très chaudes sur Terre, la mer Rouge, l'océan Indien, les mers dans les temps géologiques qui étaient là avant les mers actuelles, quand toute cette eau s'est évaporée, ça a donné lieu à d'énormes quantités de calcaire et de sulfate qui répondent à une évaporation intense de l'eau de mer. Dans ce cas, sur Mars, probablement, ce n'est pas de l'eau de mer, mais plutôt de l'eau douce. Et donc, on peut, grâce aux minéraux, faire un inventaire de la quantité d'eau qu'on a trouvée à différents moments de l'histoire de Mars. Et si on regarde sous la surface, cette fois, grâce au radar Marsis, c'est un radar qui permet de regarder jusqu'à des profondeurs à peu près de 5 ou 6 kilomètres sous la surface de Mars, chose qui est assez extraordinaire. Et on peut obtenir ce genre de diagramme qui nous montre que il y a des couches de glace que vous voyez en blanc intense, qui se forment à l'intérieur de cratères ou bassins d'impact à peu près à 1 km de profondeur. C'est des couches dont on sait maintenant, grâce au radar, qui sont faites d'eau pure, enfin de glace d'eau, mais à l'état pur, sans pratiquement beaucoup de mélange avec d'autres substances. Donc on est sûr que l'eau à l'état de glace existe sur Mars. Bon, elle existe en surface, ça tout le monde peut le voir, dans les calottes polaires, bien sûr. On sait qu'elle existe sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère depuis très longtemps, depuis presque une cinquantaine d'années, grâce à toutes les sondes qui sont allées sur Mars. Et maintenant, on a confirmé, plutôt, parce qu'on s'en doutait quand même, que l'eau existe à l'état de glace à plusieurs kilomètres de profondeur. Probablement, dans d'autres régions, elle existe aussi, mais à des profondeurs encore plus grandes que ne peut pas atteindre ce radar. Et il permet aussi d'étudier l'atmosphère de Mars, qui fait des perturbations des ondes radio quand elles se réfléchissent, soit depuis la surface, soit des différentes structures qu'on trouve sous la surface. Donc, grâce à ces images de Mars, à la minéralogie que nous donnent les différents spectromètres qu'on a à bord de Mars Express, et grâce au radar, on a pu reconstruire un peu un modèle géologique et morphologique de Mars, un peu de façon similaire à ce que les premiers géologues, nos ancêtres géologues, il y a à peu près un siècle et demi, avaient fait. Par exemple, sur cet exemple, vous pouvez voir la première carte géologique qui a été faite au monde, qui est une carte de l'Angleterre et du pays de Galles. Et le principe étant le même, c'est-à-dire on étudie la surface, on étudie la composition des roches et on étudie aussi en trois dimensions tout ce qui se passe. Donc Mars Express a pu nous permettre de faire un travail en profondeur pour établir un modèle géologique de la surface et de l'intérieur de Mars. Mais on a pu aussi étudier d'autres aspects de Mars, en particulier l'atmosphère. Par exemple, ça c'est un spectromètre qui regarde la composition atmosphérique en détail, et en particulier il regarde la vapeur d'eau, l'ozone qu'il y a dans l'atmosphère, les poussières, qui sont des composants essentiels du climat de Mars. On a vu qu'il fait toujours froid sur Mars, mais il peut faire très froid. La température moyenne est environ de moins 170 degrés. Donc, sur Terre, c'est difficile à concevoir parce qu'on n'arrive jamais à de telles températures. La plus grande chaleur qu'il puisse faire sur Mars, c'est à peu près 20 degrés au-dessus de zéro, mais dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire en été, à l'équateur, à midi, donc en prenant toutes les conditions les plus favorables, on arrive à peu près à 20 degrés centigrades. Et ce climat est surtout dominé par la quantité de poussière qu'il y a dans l'atmosphère, qui fait une sorte d'effet de serre temporaire et qui réchauffe la planète. Et quand vous avez beaucoup de poussière dans l'atmosphère, en fait, la taille de l'atmosphère enfle légèrement et se traduit par une augmentation de température à peu près de 10 degrés, puisque le rayonnement entre dans l'atmosphère et ne s'échappe pas aussi facilement. Ce spectromètre nous a aussi permis de faire une autre découverte de Mars, qui est celle des aurores. Sur Terre, vous avez certainement vu des images magnifiques d'aurores qui se situent dans les régions polaires. Ces lumières bleuâtres, verdâtres, qu'on voit la nuit, souvent en été, quand il fait beau. Personnellement, je ne les ai jamais vues, donc je vous parle vraiment de ce que j'ai pu voir dans des livres. Mais sur Mars, on a observé la même chose. La différence, c'est que sur Terre, ces aurores, qui sont dues à l'interaction du vent solaire avec la haute atmosphère terrestre, se produisent au vortice du dipôle magnétique qui existe sur Terre. Vous avez un champ magnétique lié à la convection de la structure interne terrestre, à la convection du noyau terrestre et aussi dans le manteau. Mais sur Mars, on n'a plus de champ magnétique ou vraiment très très faible. Donc on sait maintenant, c'est aussi une autre découverte des 10 dernières années, au début de l'histoire de Mars, il y a eu un champ magnétique très intense, probablement même plus que celui de la Terre, mais tout à coup il s'est arrêté, on ne sait pas pourquoi, et ça a entraîné aussi, à la même époque, un grand changement climatique sur Mars. Vous vous rappelez que les minéraux nous ont permis de savoir qu'il y avait des époques humides où l'eau était sous forme liquide à la surface de Mars, à peu près il y a 4 milliards d'années. Mais juste après, 200 millions d'années après, il y a eu ce grand changement climatique. Et ça fait que l'atmosphère a perdu beaucoup de sa densité et elle n'a plus était capable de retenir cette eau liquide à la surface. L'eau liquide est partie dans l'atmosphère d'abord et dans l'espace ensuite. Et donc le climat de Mars a complètement changé et est devenu aussi froid qu'il est actuellement. Pourquoi ? Les scientifiques n'en savent pas grand-chose, mais on sait que c'est arrivé. Et aussi... comme je disais, ça a coïncidé avec un arrêt du champ magnétique. Mais on a pu déceler, grâce à ces instruments sur Mars Express, qu'il y a des terrains sur Mars qui ont été magnétisés par le champ magnétique très ancien, et ces roches gardent encore une signature de ce champ magnétique très intense. Ça, c'est assez courant sur Terre. Si vous regardez les roches volcaniques qui s'écoulent de part et d'autre, par exemple de la ride médio-océanique, au milieu de l'Atlantique, vous avez une énorme crevasse qui fait 10 000 km de long et qui donne lieu à des épanchements volcaniques énormes. On s'en rend pas trop compte parce que c'est enfoui, caché sous 5 km d'eau, mais ça a lieu pratiquement tous les jours. Et bon, ces épanchements volcaniques, si on regarde de près les minéraux qui se forment actuellement sur Terre, on voit qu'ils sont alignés selon le dipôle du champ magnétique terrestre, donc à peu près nord-sud. Mais ça change à travers le temps. Il y a eu des époques où, au lieu d'être nord-sud, il était exactement à l'envers, et puis est-ouest, etc. Et sur Mars, grâce à ces instruments, on a pu voir que ces terrains étaient magnétisés, et c'est ce qui donne lieu à ces aurores qui ne se forment pas dans les régions polaires, mais dans des régions tempérées. Donc, c'est un peu comme si sur Terre, au lieu d'aller en Norvège pour voir des aurores, vous les voyez ici ou en Italie, dans des régions un peu surprenantes. Une autre, en plus de l'étude des grandes tempêtes de sable dont je vous parlais tout à l'heure, une des grandes découvertes en ce qui concerne l'atmosphère de Mars Express a été la mesure, la confirmation depuis l'orbite qu'il y a de grandes quantités de méthane dans l'atmosphère. Alors, vous me direz, bon, qu'est-ce que le méthane nous indique? Ben, c'est un indicateur de l'activité de Mars, soit d'activité volcanique très récente, actuelle même, soit peut-être, ça nous indique aussi la possibilité que la vie est encore présente sur Mars. Le méthane, une fois qu'il se dégage dans l'atmosphère, il dure à peu près 300 ans. Et en plus, quand vous avez une source de méthane, ça sort et ça se dissipe assez rapidement dans toute l'atmosphère. Donc il est assez difficile de voir d'où il vient, quelle est vraiment l'origine de ce méthane sur Terre. La plupart du méthane qu'on a sur Terre est dû aux vaches principalement et à d'autres ruminants. Et qui produisent des gaz comme effet secondaire de la digestion. Bon, sur Mars, on ne pense pas qu'il y ait des vaches, mais il peut avoir éventuellement des organismes ou une activité biologique qui donne lieu à ce méthane. D'ailleurs, il y a eu une conférence exclusivement sur ce sujet, sur le méthane sur Mars, il y a à peine une semaine, organisée par l'Agence spatiale européenne, parce que c'est un sujet extrêmement important. Et les gens ont des opinions diverses et discutent beaucoup à ce sujet. Est-ce que le méthane qu'on voit sur Mars, on le voit principalement dans les régions du Nord, ici en rouge et pas dans les autres. Alors déjà, c'est très curieux qu'il y ait des régions qui montrent plus de méthane que d'autres, donc qu'il y ait des sources très localisées. Et d'autre part, qu'est-ce que ça nous indique? En plus, c'est pas des régions où il y a des volcans sur Mars. Donc on aurait pu s'attendre, si le méthane était lié uniquement à l'activité volcanique, que les sources de ce méthane soient situées exactement là où on voit des volcans. Mais ce n'est pas du tout le cas, c'est exactement l'inverse. Alors, en plus de la possibilité du volcanisme ou de la vie, il y a une autre possibilité qui est que le méthane se soit formé il y a très très longtemps, mais n'ait jamais été dissipé dans l'atmosphère de Mars. Il se soit un peu gardé, entouré de glace, et cette glace a joué le rôle d'un frigo qui a gardé tout ce méthane jusqu'actuellement, où il commence à se dégager quand les calottes polaires changent de taille à travers les saisons. Donc c'est un sujet très d'actualité, je dirais, et la question n'est pas du tout tranchée. On sait qu'il y a du méthane, ça a été confirmé non seulement par des satellites autour de Mars, mais aussi par des télescopes depuis la Terre, et en quantité relativement importante, surtout, bon, c'est pas que toute l'atmosphère est faite de méthane, mais relativement parlant, c'est assez important. On a aussi pu étudier l'interaction du vent solaire et de la haute atmosphère de Mars, qui a pour conséquence qu'une grande partie de cette atmosphère neutre se perd dans l'espace continuellement. À cause de l'absence de champ magnétique, l'atmosphère n'est pas retenue par la planète, mais s'échappe librement dans l'atmosphère, dans l'espace, pardon. Et donc, on a pu mesurer quel était le taux d'échappement de cette atmosphère. Et par la même occasion, on a pu démontrer qu'il doit encore avoir une source active qui fournit cette atmosphère en molécules continuellement, puisque sinon, Mars n'aurait plus d'atmosphère. S'il n'y avait plus de source active, peut-être le volcanisme qui remplit cette atmosphère régulièrement, Mars aurait perdu son atmosphère depuis longtemps, comme c'est le cas de la Lune, par exemple. Et grâce à l'étude de la déformation des ondes radio, quand le satellite transmet les données depuis l'orbite de Mars jusqu'à la Terre, on peut étudier aussi que ces ondes radio se déforment quand le satellite survole, par exemple, de grandes masses de terrain, comme des volcans, ou bien de grands creux de terrain, comme les cratères d'impact ou les bassins. Que ce soit l'excès de masse ou l'absence de masse, a une conséquence sur la transmission des ondes radio. Et ça a permis de faire des études indirectes sur la structure interne de la planète. Donc il y a une panoplie de disciplines scientifiques qui ont pu être couvertes par cette mission, et on a pu aider d'autres missions, d'autres collègues, si je peux dire, des missions américaines qui ont atterri il y a un an ou deux, en faisant des mesures instantanées de la composition atmosphérique et des tempêtes de sable, de façon à ce qu'ils puissent atterrir à un moment plus propice pour éviter un excès de sable dans l'atmosphère. Alors, comme je vous disais, ce satellite a été construit par tous les pays européens qui sont membres de l'Agence spatiale européenne, qui a plusieurs centres répartis dans plusieurs pays d'Europe. En France, il y a le siège de l'agence à Paris. En Hollande, où je travaille, on s'occupe de sciences et de technologies. En Italie, d'observation de la Terre. En Allemagne, de centres de contrôle de satellites et des astronautes, etc. Donc c'est vraiment un effort de toute l'Europe. Et ça a permis de démarrer l'exploration de Mars de façon autonome par l'Europe. Alors, la mission continue, elle a probablement de belles années devant elle. On ne sait pas quand, bon, elle peut s'arrêter à tout moment, mais je pense qu'elle fonctionnera encore pendant 4 ou 5 ans, raisonnablement parlant. Mais on prépare déjà les futures missions, la prochaine étape, qui est non plus de science uniquement, mais de science et d'exploration. Alors, il y a toute une série de... Les Américains, surtout, ont été très actifs ces dernières années en lançant des missions sur Mars, avec des rovers et des satellites en orbite. Mais surtout en temps de crise, personne n'a des poches infinies. Et donc, c'est à l'avantage de tout le monde de collaborer, de faire des missions conjointes. Donc, depuis quelques mois, on a eu de sérieuses négociations entre la NASA et l'ESA, de façon à établir un programme conjoint de l'exploration de Mars. Donc, il n'y aura plus de mission américaine ou de mission européenne, mais de mission euro-américaine ou américano-européenne, comme vous voulez. Et c'est ce qu'on va commencer à faire à partir de l'année 2016. Jusque-là, il y a encore une ou deux missions purement américaines, puisque bon, ça, on met un certain temps à planifier, à étudier ces missions, donc on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Mais à partir de 2016, ces missions seront communes. Alors, en 2016 en particulier, on va lancer un autre orbiteur qui sera fabriqué en Europe avec des instruments communs, avec des scientifiques provenant des deux continents, de façon à étudier cette histoire du méthane. C'est tellement important et tellement d'actualité que la première mission de ce nouveau programme va se dédier exclusivement à l'étude de la circulation atmosphérique, de la composition atmosphérique, surtout les gaz rares, dans l'atmosphère de Mars, et en particulier du méthane. On va envoyer 6 instruments qui vont faire une cartographie détaillée de cette composition atmosphérique et qui vont détecter toutes les différentes molécules qu'on trouve dans l'atmosphère pour établir une composition détaillée. Et aussi faire une imagerie détaillée de certaines régions d'intérêt qui pourraient éventuellement être considérées comme des sources de méthane, d'où il pourrait s'échapper. Donc ça, c'est la première mission qui est dans les cartons. Elle va démarrer immédiatement, puisque c'est la plus urgente. Mais on prépare aussi la suivante, qui sera en 2018. Alors, je vous ai parlé de 2016, 2018, ensuite ce sera 2020. Pourquoi tous les deux ans? C'est parce que la façon dont tournent la Terre et Mars autour du Soleil fait que tous les deux ans, il y a une fenêtre de ce qu'on appelle une opportunité ou une fenêtre de lancement qui permet d'aller de la Terre à Mars à un coût minimum. Si vous aviez des moteurs gigantesques et des ressources infinies, évidemment, vous pouvez aller sur Mars n'importe quel jour de l'année. Mais pour économiser et rentabiliser les missions, on ne peut faire ça que tous les deux ans, c'est-à-dire quand les deux planètes sont le plus rapprochées l'une de l'autre et que le temps de parcours est minimum par rapport au reste du temps. Donc en 2018, on va envoyer deux véhicules, un véhicule européen et un véhicule américain, qui vont se poser ensemble sur Mars et qui vont faire des études tantôt complémentaires, tantôt séparées. Ils ne vont pas faire que des photos l'un de l'autre, ce qui sera assez intéressant, mais ils vont vraiment étudier une région d'atterrissage sur Mars en grand détail, surtout dans l'idée de trouver de traces d'éventuels signes de vie, que ce soit une vie qui a surgi sur Mars à des époques très anciennes, à peu près il y a 4 milliards d'années, ou bien une vie qui est encore active actuellement, parce qu'on pense que si la vie a vraiment surgi sur Mars, il est vraisemblable que cette vie existe encore. Pas à la surface, parce que la surface de Mars est un endroit très hostile pour la vie. C'est déjà très hostile pour l'eau. On a vu que si vous ouvrez une bouteille d'eau, elle tient pas le coup à la surface, elle disparaît immédiatement. Et la vie, c'est un peu pareil, mais pour des raisons différentes, c'est à cause du rayonnement ultraviolet du soleil. Sur Terre, on est privilégié par l'atmosphère qui nous filtre les rayons nocifs du soleil. Sinon, on ne pourrait pas vivre sur Terre. Et d'ailleurs, c'est le problème qu'ont tous les astronautes qui sont lancés dans l'espace. Ils doivent se protéger énormément du rayonnement du soleil, du rayonnement nocif des ultraviolets du soleil. C'est pourquoi, entre autres, chaque fois que vous avez une capsule, par exemple les astronautes qui sont allés sur la Lune, entre la Terre et la Lune, la capsule tournait constamment. Il n'y a pas de raison pour qu'elle tourne, a priori. Mais elle faisait ça justement pour ne pas exposer tout le temps le même côté de la capsule au soleil, parce qu'il y a des côtés mieux protégés que d'autres, et donc pour protéger l'ensemble de la tripulation vers la Lune. Et à la surface de Mars, c'est pareil. Donc si jamais on construisait des bases lunaires ou martiennes un jour pour des êtres humains, il faudrait avant tout se protéger du soleil, probablement en enfouissant toutes ces bases à quelques mètres de profondeur. Alors, on va atterrir avec deux rovers à la surface de Mars pour étudier la vie. Alors, pourquoi la vie est un sujet tellement important sur Mars? On pense que à l'époque où la vie a surgi sur Terre, il y a 4 milliards d'années, les conditions de l'environnement martien étaient très semblables aux nôtres. Donc on pense que si la vie a surgi sur Terre, pourquoi n'a-t-elle pas pu surgir sur Mars? Bien sûr, ce n'est pas du tout obligé et on n'en sait absolument rien, mais il serait quand même dommage de ne pas vérifier et de ne pas faire une étude exhaustive de toutes les possibilités et de regarder sur Mars, que ce soit, bon, en surface on sait que ce n'est pas possible, mais à une certaine profondeur, peut-être il y a ce qu'on appelle des niches biologiques qui ont été préservées au cours des millions d'années, qui font que, à cette profondeur-là, la vie a pu se conserver, surtout si l'eau liquide existe aussi à ces profondeurs-là, à plusieurs kilomètres de profondeur. Alors, une des choses qui a poussé les scientifiques dans cette direction récemment, c'est, bon, d'une part, il y a des indices de possibles vestiges de vie qui ont été décelés sur une météorite martienne qui est tombée sur Terre. Et aussi, on a découvert de plus en plus d'environnements extrêmes sur la Terre, c'est-à-dire d'organismes qui vivent dans des conditions insoupçonnables, que ce soit en température, par exemple à plus d'une centaine de degrés. On pensait qu'après le point d'ébullition de l'eau, personne ne pouvait survivre, mais en fait, ce n'est pas vrai. Il y a des organismes qui vivent à 120 degrés, 130, et qui se portent encore bien. Il y a aussi, au contraire, des organismes qui vivent dans la glace. Et donc, il y a toute une possibilité d'environnement, mais pas seulement en ce qui concerne la température, en ce qui concerne la salinité, par exemple. Il y a des organismes qui vivent dans des salinités extrêmes, énormes. Il y en a aussi qui vivent dans des pH. Normalement, c'est l'eau courante est à un pH à peu près de 7. On voit des organismes qui vivent dans des milieux extrêmement acides ou dans des conditions chimiques tout à fait extrêmes. Donc, si sur Terre on a pu voir tous ces différents organismes se développer, pourquoi pas sur Mars? C'est pourquoi on veut regarder tout ça. Donc, cette mission avec le rover européen va regarder les traces de vie, mais qu'est-ce qui va faire la différence entre celui-ci et tous les autres qui ont été envoyés auparavant? C'est surtout le fait qu'il va regarder en profondeur. Il va regarder sous la surface de Mars, chose que personne d'autre n'a fait. Donc, il a un système de forage qui permet de faire un trou sous la surface de Mars jusqu'à une profondeur d'à peu près 2 mètres et d'extraire des matériaux de cette profondeur et de les ramener à la surface pour les analyser dans un laboratoire très sophistiqué à l'intérieur du rover lui-même. Donc on va prélever des roches, et des minéraux de 2 mètres de profondeur et les analyser en les faisant, en les mettant dans un four pour les chauffer à peu près 1000 degrés de température, de façon à dégager toutes les espèces de composants légers qui se trouvent dans ces minéraux. Pas seulement l'eau ou d'autres gaz, mais bon, d'autres substances. Et tout ça va nous permettre de voir s'il y a des composés organiques ou pas. Alors, au bout du compte, on pourra faire un grand pas vers la réponse de l'histoire du méthane. Est-ce que ça provient de sources vivantes ou bien de sources volcaniques. Donc on va essayer d'atterrir cette mission dans cette région de Mars qui se trouve à la limite entre les terres les plus anciennes qui sont au sud, ici en jaune, qui sont des terrains criblés d'impacts de météorites. Ce qu'il y a au nord, en bleu, c'est les terrains les plus jeunes de Mars, c'est des plaines très peu rugueuses, qui n'ont pratiquement pas d'impact de météorites, et qui montrent une grande frontière entre les terrains du nord et ceux du sud. Alors, on va essayer d'atterrir en plein milieu. Mais encore une fois, on ne sait pas pourquoi il y a cette grande différence entre le nord et le sud de Mars, pourquoi les deux types de terrains sont tellement divergents, l'un jeune, l'autre vieux, l'un cratère, l'autre pas, etc., etc. Donc, justement, à cette frontière-là, vous voyez à l'intérieur du cercle, il y a eu beaucoup de lacs qui ont dû se former à une certaine époque quand l'eau était liquide à la surface de Mars. Et c'est justement dans ces lacs qu'on pense qu'il y a eu des sédiments qui se sont formés et qui ont peut-être pu préserver des formations d'origine biologique. Alors ça concernerait la vie ancienne, s'il y a des traces comme des fossiles qu'on trouve sur Terre. Mais la chimie, en fond, sous la surface, va nous permettre, elle, de déceler la vie actuelle. Alors, voilà comment tout ça va se passer avec différents types de parachutes, d'atterrisseurs. Et on va faire fonctionner le petit rover pendant à peu près 6 mois à la surface de Mars, de façon à faire toutes sortes d'analyses de panorama du site d'atterrissage, de forage sous la surface et d'analyses chimiques et minéralogiques. Et puis on arrive en 2020, alors c'est l'opportunité suivante. Alors en 2020, on aura une mission peut-être plus ambitieuse que les deux précédentes, puisqu'il s'agit de mettre en place un réseau de stations à la surface de Mars. Alors, en 2016, on avait un véhicule orbital uniquement. En 2018, deux petits rovers, américains et européens. Mais maintenant, on veut faire un réseau de stations. Alors, pourquoi appeler ça réseau? C'est parce qu'on aura à peu près peut-être 6 stations, peut-être 8. Un réseau veut dire que toutes les stations fonctionnent simultanément. Il ne s'agit plus d'avoir des instruments ici qui font leur boulot et d'autres à 1000 km de distance qui font autre chose, mais il s'agit de faire exactement la même chose, exactement au même moment, avec des horloges atomiques, etc., pour connaître le temps absolument de façon très, très détaillée. Et ça, ça nous permettra de mettre en place un réseau de séismomètres pour étudier les tremblements de, pas de Terre, mais les tremblements de Mars. Alors, quelle est l'activité interne de la planète? C'est quelque chose qu'on ignore complètement. Tout ce qu'on connaît de la planète, de l'intérieur de la planète, n'est connu que de façon indirecte, à travers l'analyse des ondes radio, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais là, on veut vraiment étudier la structure interne, et pour ça, il faut faire atterrir toutes ces stations à la surface. Alors, on va faire de la séismologie, comme on fait sur Terre pour chaque fois qu'il y a un tremblement de terre en Méditerranée, ou en Californie, ou en Indonésie. On a tout un réseau qui fonctionne et qui vous dit tel tremblement de terre a eu lieu à telle profondeur, avec telle intensité, etc. Et on veut faire la même chose, peut-être de façon plus modeste encore, mais on veut faire ça sur Mars. Parce que chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, ça nous permet d'analyser le parcours des ondes sismiques à travers les différentes couches de l'intérieur de la Terre, à travers le noyau, le manteau, la croûte. Et ça, ça permet de voir quelle est l'épaisseur relative de ces différentes couches. Est-ce qu'on a un noyau terrestre qui est solide ou qui est liquide? Est-ce qu'on a un manteau qui est très épais ou très peu épais? Une croûte qui est très épaisse, comme on pense que c'est le cas sur Mars? Et tout ça, c'est très important pour connaître quelle est l'évolution de la planète dans son ensemble, quelle a été l'histoire de son refroidissement et de son évolution au cours du temps. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire en 2020, et puisqu'on sera sur Mars, on va aussi utiliser ce réseau, pas seulement pour l'intérieur, mais aussi pour étudier la circulation atmosphérique de la planète. Et on va pouvoir étudier quels sont les mouvements de la rotation de Mars autour de son axe, qui change beaucoup au cours du temps. Et c'est une des raisons essentielles du changement climatique qu'on voit sur Mars. Actuellement, l'axe de rotation sur Mars est incliné à peu près comme celui de la Terre, mais il change énormément au cours du temps. Sur Terre, nous sommes protégés par beaucoup de choses, par l'atmosphère, par le champ magnétique, et aussi par la Lune. Et la Lune fait que le climat terrestre est très stable. On se plaint évidemment tous les étés du temps qui fait, des inondations et tout ça, mais s'il n'y avait pas la Lune, il serait pratiquement impossible de vivre sur Terre. Parce que les changements seraient absolument extrêmes, comme ils le sont sur Mars, où vous avez un cycle climatique qui dure à peu près 40 000 ans, et avec des températures extrêmes et tout ça. Alors on veut étudier tous ces mouvements, et pour ça il nous faut le réseau et un véhicule orbital pour coordonner tout ça. Ça, c'est un exemple de l'endroit où on pourrait faire atterrir ces stations. Et cette mission, et je finis dans quelques secondes, nous donnerait une possibilité unique de coopération entre différents pays et différents continents en ce qui concerne l'exploration de Mars. En ayant plusieurs stations, on peut très bien concevoir que l'Europe pourrait en fournir 2 ou 3, l'Amérique peut-être 3 ou 4, mais aussi il y a d'autres pays qui sont extrêmement intéressés de se joindre à nous, tels que le Japon, la Chine, peut-être le Canada, peut-être l'Inde même. Et donc, ensemble, on pourrait faire en sorte que ce réseau a une importance scientifique énorme, puisque c'est le seul moyen qui nous permette d'accéder à l'intérieur de la surface de Mars, et aussi qui donnerait une possibilité de coopération internationale à très grande échelle, dont on n'a pas vraiment l'habitude dans les missions scientifiques. En général, on coopère entre trois pays. Enfin, quand je dis deux ou trois pays, c'est à l'extérieur de l'Europe. À l'intérieur, on a l'habitude de travailler ensemble depuis très longtemps, mais avec d'autres, c'est moins courant. Et ça permettrait de faire un grand pas en avant l'étape suivante, qui serait peut-être l'étape ultime de ce programme d'exploration robotique de Mars, qui est le retour d'échantillons de Mars. On pense que dans à peu près une quinzaine d'années, on sera en mesure, bien sûr de façon conjointe entre l'Europe, l'Amérique et vraisemblablement d'autres agences aussi, de lancer une mission qui prendrait des échantillons, différents échantillons de sol, et d'atmosphère et de minéraux, et de faire décoller un véhicule de la surface de Mars pour revenir sur Terre afin d'analyser tous ces éléments en grand détail dans des laboratoires terrestres qui seront toujours beaucoup plus perfectionnés que les meilleurs instruments qu'on puisse faire voler sur Mars. Donc voilà quels sont les plans d'avenir en ce qui concerne l'exploration de Mars. Et je crois que mon temps est terminé. Merci.